You out of earth.
Il est 20h passé de 3 minutes et tout de suite vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Sport, l'émission sportive de Radio G, toujours en direct du 101.5 FM. Vous nous écoutez donc depuis les ondes ou depuis le site internet de Radio G, www.radio-g.fr. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport, émission chargée, émission spéciale Coupe du Monde. Vous le savez, c'est bientôt la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera le coup d'envoi donné donc dimanche. Et donc voilà, pour certains, voilà effectivement la patience est de mise. Pour un petit peu le programme. Évidemment, avant, on va parler un peu de d'actualité locale et internationale. Vous en avez l'habitude. Et puis, comme je le disais, en deuxième partie d'émission, on parlera de la Coupe du Monde 2022 de football. On va donc présenter les chroniqueurs qui sont avec moi aujourd'hui. À ma gauche, Faustin. Le retour de Faustin, comment ça va?
Ça va mieux du coup, ça va mieux, oui. Dernière.
Petite grippe, petit rhume.
Ouais, petit rhume.
Ouais, c'est l'hiver, hein, il commence à faire vraiment froid. Il y en a un qui était là la semaine dernière et qui est toujours là aujourd'hui et qui est toujours présent. Cédric.
Salut tout le monde.
T'as la forme?
Ouais, on essaye. Hein. Espérant que tu sois pas encore contagieux. Hein.
Non, effectivement, ouais. C'est vrai que c'est un temps à attraper froid, effectivement.
Surtout aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai qu'il a fait très froid aujourd'hui. Donc, comme je le disais en préambule, on va parler donc d'actualité. En local, il n'y a pas forcément grand-chose, mais voilà, il y a quand même des bons résultats, notamment du côté du SCO Handball et de l'UFAB. Il y aura un match aussi des Ducs hein, qui va commencer bientôt. En international...
Ouais, d'ici 25 minutes.
Ouais, c'est à 20h30.
Ouais, c'est 20h30 apparemment.
Et ben voilà, on suivra ça. En international, donc on parlera un peu de la Ligue 1. On parlera du Masters, on parlera de l'équipe de France avec donc le basket et les débuts de Victor Wembanyama. Et puis Formule 1, un GP assez assez surprenant, donc enfin voilà, qui a réservé ses surprises donc ce week-end. Et puis on parlera aussi de rugby et de handball. Donc voilà pour le sommaire de l'émission. Je vous propose de commencer sans plus tarder par le football au niveau du local. L'avantage donc de la trêve de la Coupe du Monde, c'est que le SCO ne perdra plus chaque semaine comme il le fait depuis bientôt deux mois. Dimanche à Lille, les Angevins ont concédé une 7e défaite consécutive et se sont enfoncés un peu plus dans la place de lanterne rouge de Ligue 1. Les SCOistes sont arrivés tout de même avec de bonnes intentions face à une équipe du haut tableau qui produit un jeu alléchant depuis le début de saison. Hamid Salama a d'ailleurs bien cru trouver la faille à la 33e minute de jeu sur un service parfait d'Abdallah Sima. Finalement, l'ouverture du score angevine fut refusée après visionnage de la VAR et un hors-jeu donc qui a été signalé au début de l'action. Dans la foulée, c'est sur corner que le LOSC va riposter avec la tête vainqueur de Thiago Diallo qui permet aux Lillois de passer devant. Le score va rester à 1-0 en faveur des champions de France 2021 et le SCO accumule donc sa 11e défaite de la saison. Les Noirs et Blancs vont bénéficier d'un break d'un mois et demi qui vont lui faire du bien pour essayer de repartir sur le bon pied en 2023. Le poste de Gérard Baticle est donc, comme on le disait, toujours en question. C'est un peu le feuilleton qui agite le sport à Angers. Et les dirigeants donc SCOistes qui devront trancher normalement dans les semaines prochaines pour savoir si l'ancien Lyonnais reste en poste. Il a eu quelques déclarations qui ont été un peu dans le sens du sentiment de désunion par rapport à son groupe qui ne suit pas forcément ses consignes ou qui manque un peu parfois de combativité, pardon. Et surtout, donc voilà, la question de l'entraîneur. Alors, c'est vrai que, comme on a dit dans les émissions précédentes, en Ligue 1, on a souvent tendance à virer le coach quand les résultats vont mal. Il y en a déjà eu 6 qui sont partis depuis le début de la saison. Et le problème, c'est que Saïd Chaban, et en tout cas la direction, sont confrontés à un vrai problème au niveau du salaire. Du coach qui en plus donc a un contrat jusqu'en 2025. Messieurs, je vais reposer la question. Est-ce que justement on doit profiter de cette trêve pour changer d'air, pour changer d'entraîneur et pour aussi recruter après?
Oui, moi je pense qu'il serait bien temps.
Oui.
Ça fait trop longtemps qu'on en parle hein, et si ça doit se faire là, ça doit vraiment se faire très vite pour que. Ouais. Si nouvel entraîneur il y a, qu'il ait le temps de s'habituer au groupe, de
pouvoir, les faire bosser. Voilà,
aussi, je crois qu'il y a Boufal et Ounaïs qui
jouent un coup du monde. Il y en aura deux. Exactement, il y en aura deux. C'est les seuls qui joueront la Coupe du Monde. Voilà, c'est vrai que la Coupe du Monde va permettre justement un break plus long pour les joueurs. Toi, Cédric, c'est quoi ton avis? Est-ce que tu penses qu'il faut rester là-dessus? Garder la confiance pour le coach et éviter surtout une dépense assez astronomique.
Le problème, c'est qu'il va falloir faire des dépenses.
Au bout d'un moment, oui.
De toute façon, il va falloir recruter au mercato.
Voilà, soit dans le coach, soit dans le...
Donc, au final, je ne sais même plus si c'est réellement un problème de coach. De toute façon, c'est, je crois que, de toute façon, on voit qu'autour, hein, c'est, il n'y a pas de réaction, pas de communication, enfin... Si, par contre, il y a un nouveau responsable de la communication qui est payé cher, mais bon.
Ouais,
et voilà, qui fait de la contre-com. Ou voilà, quand
c'est un cas, lui. Hein, c'est un cas.
Pour certaines choses. Donc, enfin, je pense que soit il y en a qui se mettent plein les poches avant de tout vendre, ou enfin, ça devient n'importe quoi, ce club. Et, enfin,
ouais.
C'est le côté sportif qu'il paye. Hein, yes.
Bah oui, et puis surtout, les joueurs, on sent aussi sur le terrain qu'il y a un manque d'envie.
Apparemment, il y avait un peu de mieux quand même sur ce match-là.
Oui, apparemment, c'est ce que le coach disait justement. C'est qu'il y avait un peu de mieux, surtout au niveau des intentions. Mais bon, ça a mal tourné encore une fois. Donc, voir.
C'est dommage, c'est encore pris un but sur corner.
Ouais, c'est un but encore sur coup de pied arrêté. La semaine d'avant, c'était. Je vais trouver, c'était sur coup franc. Complètement dépassé.
De toute façon, tu regardes, ça a été le problème à tous les matchs. Hein,
clairement. clairement, clairement. Donc voilà, beaucoup de buts.
Il va falloir recruter des grands, je sais pas, mais.
Ouais, non, mais la défense, moi, elle me sort par les yeux parce que c'est. C'est Utunji et Blazic qui sont catastrophiques. Enfin, voilà quoi.
Puis bon, peut-être revoir aussi le poste de gardien. Au bout d'un moment.
Ah, faut clarifier les choses.
C'est bien d'avoir acheté.
C'est comme au PSG, c'est-à-dire que c'est. Bon, à échelle différente, mais c'est une concurrence qui est inutile et qui est.
C'est ça, c'est.
Où tu sais pas trop qui est le meilleur entre les deux. Et donc,
surtout qu'en fin de saison, t'achètes un gardien pour le faire jouer et au final, oui. Il joue plus. Enfin,
bref. Donc voilà la situation.
J'espère au moins qu'il joue en réserve ou des trucs comme ça quoi, pour lui.
Ouais, je sais pas, mais ouais, c'est très compliqué. Donc là, la situation du SCO qui est délicate. Et donc on verra donc, pendant la trêve si ça évolue. Évidemment, on suivra ça de près. On va passer au basket maintenant. Faustin, donc le AB et Cholet n'ont pas joué puisqu'il y a eu la trêve internationale. Mais l'UFAB a fait un bon petit résultat.
Ouais. Elles ont commencé à s'imposer en Eurocoupe en terre croate du Raguza Dubrovnik sur le large score de 55 à 92. Après, elles sont revenues à Angers pour enchaîner sur un deuxième succès, cette fois en championnat, face à Saint-Armand, 78 à 54. C'est leur première victoire en championnat cette saison, ça fait plaisir. Ouais. À souligner la très très bonne perf de Kekeli Elenga qui a signé un match à 20 points et 9 rebonds.
Pas mal.
Ouais, c'est rare de voir ça dans cette équipe. Elles joueront demain un nouveau match d'Eurocoupe. Ce sera le premier match retour face à Charleville-Mézières. Et puis elles se déplaceront samedi du côté de Lyon-Villeurbanne pour un match de championnat.
Et surtout, il faut le dire, le match d'Eurocoupe est à domicile.
Ouais.
Donc pour les auditeurs qui veulent. Voir du basket européen à Angers, ce sera donc à Jean-Bouin.
Enfin, il y a deux solutions même, puisqu'il y a aussi les matchs qui vont être diffusés sur
oui,
YouTube.
C'est vrai.
Également. Pour ceux qui n'auraient pas de place.
Voilà, effectivement, pour l'UFAB. À noter que Saint-Amand avait, j'ai vu ça donc, notamment sur les réseaux, Saint-Amand qui avait deux anciennes joueuses d'Angers qu'on a reçues dans l'émission. Il y avait Iva Jonzac, la croate, si je ne dis pas de bêtises, et puis il y avait Oder Hachidom. La nigériane. Donc voilà, ça faisait plaisir de voir des visages qu'on connaissait. Donc voilà.
Et puis apparemment, gros travail au niveau des tirs à trois points. Là. Durant le match, apparemment, ça a bien bossé là-dessus. Ce qui était un petit peu le point faible sur les matchs qu'on avait pu voir l'année dernière.
Ouais.
Donc c'est quand même rassurant. Voilà,
Et puis surtout, la réussite au shoot qui avait aussi manqué sur le match contre Bourges où elles avaient pris. On en avait parlé la semaine dernière, elles ont marqué 16 points en une mi-temps.
Sur la News Wesley, qu'on a reçu du club, c'était ce qui est mis en avant justement le travail aux 3 points et la défense solide.
Donc parfait, le travail de Aurélie Bonan commence à porter ses fruits. Donc voilà, merci Faustin pour ce point UFAB. On va parler de handball, on le sait, Angesco Handball est en pleine forme depuis le début de la saison de National 1 Elite. Mieux encore, les Angevins sont imprenables et sont très bien partis pour remonter en Pro League un an après avoir quitté donc, l'antichambre de la Star League. Dimanche après-midi, les joueurs d'Issamtej ont disposé de Mulhouse 31-28 en proposant une copie plutôt propre. Ils ont aussi pu compter sur un Williams Manebar des grands soirs, des grands jours, puisque leur capitaine a marqué 13 buts, faisant de lui donc le troisième meilleur buteur du championnat. Dans le même temps, les autres hommes forts de l'équipe, comme Swan Lemarié, Ahmed Abdelak ou encore Ashraf Safi, ont aussi apporté leur pierre à l'édifice durant ce match. Évidemment, avec 8 victoires et un nul en 9 journées, les scoïstes sont leaders de N1. Et comme on l'a dit, évidemment, ce sont les grands favoris pour remonter en Pro League. Effectivement, donc on peut le dire aussi, c'est un vrai travail de long terme qui a porté ses fruits avec notamment la conservation au poste d'entraîneur de la part de d'Issamtej et puis surtout voilà des joueurs qui sont restés comme Manebar, comme Ridzi pour garder l'ADN du club et surtout laisser la continuité par rapport aux bonnes choses qui ont été entrevues donc les années précédentes. Voilà, au niveau du SCO Handball. Cédric, donc, on l'a dit, pas de match pour les Ducs ce week-end, mais en tout cas, voilà, il y a un match qui va avoir lieu, et ce week-end, prochain, donc, c'est le grand rendez-vous à Cardiff, avec donc tout simplement le match, enfin le, non, qu'est-ce que je disais, le week-end donc à Cardiff, comme je le disais. Je me répète un peu,
ça
j'ai un problème
sur
mon ordi.
Le point d'orgue de la semaine, oui, ça va être ça.
Voilà. Ouais, ça va être vraiment le... Bah justement, encore de l'Europe, hein, donc pour les
plus grands joueurs.
Donc voilà, et puis ça va être une vraie expérience pour les Ducs, qui sont face à un vrai défi.
Ouais, je pense ça va être un autre niveau normalement, donc on verra pas des scores fleuves là, qu'on a pu voir à l'Ice Park, mais... Je sais pas, c'est compliqué. Hein, c'est vraiment des clubs qu'on connaît pas. Voilà, donc.
Pas forcément. Mais bon, voilà. Mais on espère qu'ils seront au rendez-vous.
Voilà. C'est ça, c'est au moins qu'ils aillent chercher quelques victoires. S'ils n'arrivent pas à se qualifier, c'est toujours mieux.
Ouais.
Pour la confiance. Et puis bon, on va espérer ce soir qu'il n'y ait pas trop de petits bobos contre Briançon.
Ouais, donc les Diables Rouges de Briançon.
Les Diables Rouges, voilà. Donc,
c'est pas les Belges, hein, c'est les Briançonnais.
c'est toujours, je pense que faire ton équipe, là, ça a dû être compliqué. Tu dois préserver tes joueurs, mais tu dois pas les empêcher de jouer.
Ouais.
On sait que les blessures, ça peut arriver très vite. Donc, je pense que voilà, il y aura sûrement de l'intensité, mais on va espérer voilà, pour que... La fête ce week-end soit encore plus belle, qu'il n'y ait aucun blessé. Quoi.
Bien sûr. On va passer du coup au national et à l'international avec le football. Alors, on va parler plus tard donc, de la Coupe du Monde. On va parler surtout, là, dans un premier temps, de la Ligue 1, puisque c'était la 15e journée de Ligue 1. C'était aussi la dernière occasion pour les équipes encore donc, bien placées d'engranger des derniers points donc, avant cette trêve. Vendredi, match nul entre Lyon et Nice, un partout avec un pénalty de chaque côté. Lens a renversé Clermont 2-1 à domicile à Bollaert. Rennes a battu Toulouse 2-1. Paris a étrié Auxerre 5-0. Nantes a fait match nul contre Ajaccio 2-2. Également nul entre Montpellier et Reims 1-1. Du côté de Brest, il y a eu une victoire 2-1 contre 3. On l'a dit, Angers est allé perdre à Lille 1-0. Strasbourg et Lorient se sont quittés sur un score de parité 1-1. Et puis Monaco a renversé Marseille à Louis II avec donc une victoire 3-2 avec 2 buts dans les toutes dernières secondes, toutes dernières instants. Et puis du coup, on peut faire un petit point sur le classement forcément, puisque voilà, il y aura une grosse pause avant la reprise qui est prévue pour le début du mois de janvier 2023. À la première place, évidemment, on retrouve Paris, 41 points. Lens qui suit juste en dessous avec 36 points, qui est pas mal du tout. Rennes complète le podium avec 31 points, suit derrière Marseille, 30 points. Lorient, la surprise de ce début de saison, avec 28 points. Monaco, ensuite, à la 6e place avec 27 points. Il y a une équipe qui a déçu, notamment, c'est Lyon, qui est à 8e place avec 21 points. Et puis, dans le bas du classement, on retrouve Brest, juste au-dessus de la zone de relégation avec 13 points. À égalité de points, on retrouve Auxerre à la 17e place. 18e Ajaccio, 12 points. 19e Strasbourg, 11 points, c'est assez serré. Et puis en dernière place, on retrouve Angers avec seulement 8 points en 15 journées. Donc voilà, 8 points sur 45 possibles, c'est quand même assez compliqué. Bref, on va enchaîner avec le tennis, puisqu'il y a des matchs en ce moment. Après la victoire de la Française Caroline Garcia la semaine dernière lors du Masters féminin, c'était aux têtes de série du tableau masculin de se lancer pour le tournoi des maîtres à Turin. La semaine a commencé dimanche avec les victoires de Rude et de Fritz, respectivement contre Auger Aliassim et Nadal. Le lendemain, dans l'autre groupe du tournoi, Djokovic est venu à bout de Tsitsipas en 2-7, tandis que le duel russe entre Rublev et Medvedev a vu s'imposer Rublev en 3 manches. Aujourd'hui, l'Espagnol Rafael Nadal a dit adieu à ses chances de se qualifier pour les demi-finales en s'inclinant contre le Canadien Félix Auger-Aliassime en 2-7, 6-3, 6-4. Et puis, tout à l'heure, donc, il y a eu... Alors non, ça n'a pas encore commencé, donc tout à l'heure, il y aura le match donc entre le Norvégien Casper Ruud et Taylor Fritz, donc l'Américain, pour une place en demi-finale. À noter que Carlos Alcaraz, qui est numéro un mondial, ne dispute pas le tournoi en raison d'une blessure, mais il va notamment aller à Turin pour recevoir un trophée de numéro un mondial de la saison. Je savais pas qu'il y avait ce genre de trophée qui était décerné, mais en tout cas voilà, il va venir.
Non, c'est, je pense, une première. Ce qui est...
J'en ai jamais entendu parler. Ouais, ouais. J'ai vu l'info et donc voilà, donc il va, comme ça, il va prendre un peu part à la fête malgré sa blessure. On va enchaîner avec le basket maintenant. Faustin, je pense qu'on va commencer par l'équipe de France.
Oui, c'est ce que j'avais prévu.
Eh bien, on va pouvoir parler. Donc, évidemment, l'attraction de ce week-end, notamment, c'était Wembanyama.
Oui, Wembanyama qui a fait ses deux premiers matchs avec l'équipe de France. Le premier vendredi contre la Lituanie, où la France a pu facilement s'imposer, 90 à 65. Je sais pas si vous avez vu les images d'un moment Victor Wembanyama qui tombe.
Non, j'ai pas vu.
Il tombe, il y a son genou qui fait un truc bizarre.
Oula.
Il met les deux mains à terre, et il se relève direct. En fait, il avait rien du tout, mais je pense qu'à ce moment, il y a des scouts NBA, des trucs comme ça.
Ils étaient en sueur.
Ils ont dû crier.
Toutes les équipes qui ont tanké leur saison elles étaient.
Ils ont une grosse goutte dessus. Mais bon, ça ne lui a pas empêché de mettre 20 points et capter 9 rebonds. La France est baladée. On a aussi un autre joueur, pourquoi j'ai plus le nom, qui a mis 21 points. Le meneur de 1m79
Qui a dunké ?
Oui.
Francisco ?
Oui, exactement. Voilà, c'est ça,
Francisco. Impressionnant dunk. Hein. Je ne sais pas si les auditeurs vont le trouver sur les réseaux sociaux, mais. Donc moins d'1m80, donc c'est petit au basket. Et le gars dunk est un poster en plus.
Ouais,
le poster, c'est quand il y a un défenseur qui vient pour contrer. Impressionnant. La détente du gars, c'est
à
fou.
Deux pieds, vraiment, il smash la balle. C'était magnifique pour l'avoir vu en direct. Et ça, c'était du coup pendant le deuxième match qui se jouait à Pau face à la Bosnie-Herzégovine. Où là aussi, l'équipe de France s'est facilement imposée 92 à 56. Ils ont donc assuré leur qualification pour le mondial de 2023 qui jouera cet été. On a aussi, encore une fois, vu Wembanyama s'amuser durant ce match avec notamment un nouveau shoot à 3 points sur à pied en déséquilibre, dont il commence à avoir le secret. Et finit là la rencontre avec un solide 19 points. C'est une copie donc très propre sur ces deux matchs pour l'équipe de France.
Et puis surtout, il y a eu 20 points et 19 points sur des premiers matchs d'équipe de France. Je ne sais pas si on a beaucoup vu ça.
C'est
directement le leader en fait de cette équipe. C'est ça qui est impressionnant.
Dans le public à Pau, les gens sont restés à la fin du match, vraiment jusqu'à 20
minutes.
C'est
une vraie attraction, c'est fou.
Ça, tout le monde était là à voir sa photo, son autographe de Victor Wembanyama.
Donc voilà, on le rappelle, il a 18
ans. Il aura 19 le 3 janvier.
Ok, c'est en 2004 en plus.
Ouais.
Ah ouais, c'est impressionnant quoi. Et donc, pour rappeler, il fait 2 mètres...
2 mètres 20 environ.
2 mètres 20, voilà. Et en fait, sa particularité, pour expliquer aux auditeurs, c'est que normalement, les grands joueurs comme ça, ils ont quand même du mal à se mouvoir,
À shooter.
C'est ça, ils sont moins techniques, parce que forcément, il faut déplacer une grande carcasse. Et Wembanyama n'a aucun problème à ça. Et c'est ça qui est impressionnant. Et puis dans la raquette...
C'est tout faire.
C'est assez dingue. Et donc, c'est positif pour l'équipe de France. Il y a le Mondial qui arrive en 2023, donc avec la qualification, et puis il y a les JO en 2024.
Ouais.
Et pour lui, évidemment, la Draft NBA qui arrive bientôt, donc ça va être intéressant de suivre ça. Un petit point NBA ou pas ce week-end quand même.
Moi, j'ai démarré par Joel Embiid, le joueur franco-américo-camerounais, on ne sait plus, qui a lâché une énorme perf avec son équipe des Philadelphia Sixers, parce qu'il a mis 59 points, a capté 11 rebonds, a fait 8 passes dé et 7 contre. C'est du jamais vu en NBA. C'est le premier joueur à réussir un match avec plus de 50 points, plus de 10 rebonds, plus 5 passes dé et plus de 5 contre. Il a donc évidemment largement contribuer à la victoire de son équipe face au Jazz. Je vais aussi faire un point sur les Lakers qui n'y arrivent toujours pas en ce début de saison. J'en avais parlé avec lorsqu'ils avaient réussi leur première victoire. Seulement 2 victoires signées depuis 2 semaines et 7 défaites. Ils sont donc à un bilan de 3 victoires pour 10 défaites. Ils sont avant-derniers de leur conférence. Il va falloir se reprendre pour pouvoir s'en sortir et espérer au moins un play-in.
Peut-être qu'ils veulent Wembanyama justement à la draft.
Peut-être, hein, mais ça m'étonne.
Ouais, ça m'étonnerait j'ai aussi.
Vu les gros contrats qu'ils ont, ça m'étonnerait que ce soit ça qui vient. Mais... je vais aussi maintenant parler d'une équipe qui est plus en forme, parce que je vais parler des Milwaukee Bucks, qui sont eux, au contraire, des Lakers en forme, et qui sont donc en 10 victoires pour 3 défaites en ce début de saison. C'est le meilleur de la Ligue pour l'instant. Il leur a fallu jouer 10 matchs avant de connaître leur première défaite cette saison. Cette équipe est évidemment menée par le grec Giannis Antetokounmpo. Ils ont l'air très très puissants cette saison. À voir s'ils peuvent tenir ce rythme jusqu'à la fin et potentiellement aller chercher un nouveau titre.
Très bien. Eh bien, merci pour ce point basket sur l'équipe de France et sur la NBA. Formule 1, on va parler donc de l'avant-dernier Grand Prix de la saison 2022. La course de dimanche a réservé quelques surprises, je le disais en introduction, à l'occasion du GP du Brésil. Alors, pour commencer, le Britannique de chez Mercedes, George Russell, a décroché sa première victoire en Formule 1, s'imposant devant son compatriote Lewis Hamilton. Chez Red Bull, en revanche, ça s'est un petit peu moins bien passé avec une 6e place pour Verstappen, une 7e pour son coéquipier Perez. Il y a eu d'ailleurs un peu de la friction sur la ligne avec, entre les deux pilotes, notamment de l'écurie, puisque Verstappen n'a pas laissé Perez passer devant, ce qui aurait pu donc arranger aussi le Mexicain pour le classement général, alors que Verstappen est déjà champion du monde. Donc voilà, ils ont un petit peu gueulé dans les micros. Je te demanderai ce que t'en penses, Cédric. Juste avant, il y a aussi Ferrari qui a quand même placé, je crois que c'est Sainz, sur le podium de ce Grand Prix. Charles Leclerc a terminé 4e, mais ils ont un petit peu, encore une fois, fait parler d'eux, notamment avec une faute, c'était pendant les essais, avec un arrêt au stop très compliqué pour Charles Leclerc, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je dirais pas l'affaire Red Bull, mais sur la petite friction qu'il y a pu avoir entre les deux. Toi, tu me disais en hors antenne que tu trouvais pas ça si dérangeant que ça.
Non, normalement, les consignes d'équipe sont interdites. Donc en soi, ils n'ont pas à privilégier un ou plusieurs pilotes, quelles que soient les écuries, pour qu'ils puissent récupérer des points au championnat. Logiquement, c'est condamnable. Donc, le problème, c'est que c'est un petit point du règlement. Je pense que la FIA s'est assise dessus depuis un bon moment. Alors, on l'a vu par le passé. Chez McLaren, ça a été le cas. Des fois, tu sais pas pourquoi, mais il y avait un changement soudain de leader avec une soi-disant panne. Chez Red Bull, c'est la même chose. Chez Ferrari, on ne sait pas trop, mais pendant un moment, il y a eu un peu cette politique-là aussi. Donc, dans le passé, ça a coûté.
Mais là, c'est même plus une décision d'équipe, parce qu'il est déjà champion du monde. Il y voit dans son rétro Perez. Est-ce que c'est fair play, entre guillemets, pour un coéquipier il aura pu lâcher le frein, quoi.
Est-ce que c'est... Une place, ça se gagne sur la piste, normalement.
Oui, bah bien sûr.
Donc, partant de là, non, pour moi, c'est pas choquant en soi. Après, oui, effectivement, au vu de la situation, ça fait qu'on a une égalité avant le dernier Grand Prix pour la seconde place. Faut savoir que aussi, bon, s'il y a une égalité, c'est parce que ce week-end aussi, il y a eu un format spécial. Il y a eu une course de sprint le samedi, ouais, qui a déterminé la grille le dimanche. Donc, ça plus ça. Voilà, Perez, bon, par contre, effectivement, je peux le comprendre, qui gueule, parce que voilà, il a été quand même un leader fidèle tout au long de la saison, et encore plus l'année dernière, pour aller chercher les points quand il fallait pour contrer, ou en donner, donc ça peut se comprendre, mais en soi, la réaction de Verstappen, elle est simplement logique, hein, okay, au vu du règlement. Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'il essaye aussi de viser les records.
Ouais.
Mine de rien, voilà.
Après, il était la 16e.
Ouais, mais si tu veux, enfin,
record de points peut-être.
Record de points, okay, qui reste encore. Record de victoire, je crois qu'il si...
Il a égalé, je crois.
Il a égalé. Peut, avec le dernier Grand Prix, le dépasser. Donc,
Et sur le Grand Prix en général, t'en as pensé quoi? Donc, on rappelle, alors, c'était à Sao Paulo au Brésil.
Pour une fois, mais c'est souvent au Brésil, on a quand même des belles courses.
Ok.
Et c'est surtout la course au sprint, pour une fois, qui était intéressant. Au moins, ça, il y a eu des petits enjeux. Ça s'est doublé. Enfin, il y a eu de la bagarre. Donc ça, c'était plutôt cool.
Ouais.
Pour ce format-là, bon, je suis toujours pas convaincu de l'utilité, mais en tout cas, le samedi, voilà, on a eu une belle course. Et puis, le dimanche, il y a eu un petit peu de piment. Il y a eu du coup ce scénario incroyable pour Leclerc quelque part, parce que la Ferrari, qui était pas si bien que ça. Durant les essais et ensuite, fait quand même une belle remontée puisqu'il se fait accrocher dans un virage, il passe au stand, il y a des safety cars, ça lui a permis de revenir. Enfin, là-dessus, on a eu un beau scénario, puis bah, j'ai envie de dire une victoire logique après, voilà, première victoire de l'année pour les McLaren, enfin pour les Mercedes.
Avec Russell.
Avec Russell, voilà, Russell.
Qui voit après un peu ce
truc. Oui, oui, oui. Qui a porté quand même l'équipe cette année.
Hein. Ouais, qui a fait pas mal de podiums.
Enfin, voilà, si la voiture, elle est rendue à ce niveau-là, je pense que c'est en grosse partie grâce à lui. Donc, ouais. Non, au moins, ça a peut-être aussi débloqué des choses dans sa tête par rapport à ça. Et on n'est pas à l'abri. Dernier Grand Prix, je ne sais pas comment va se comporter la voiture, mais normalement, c'est un circuit historiquement qui leur convient. Donc, on va peut-être récidiver. En tout cas, j'espère pareil. Voilà, c'est qu'on n'ira pas offrir une victoire à Hamilton, histoire de dire, bah voilà, il a eu une victoire dans la saison pour éviter, oui, d'avoir cette stat. C'est peut-être, ouais, ça qui peut me faire peur si les deux sont côte à côte.
Ouais.
Voilà.
Parce que, ouais, du coup, Hamilton a terminé deuxième. On va enchaîner maintenant avec le rugby. Les rugbymen tricolores ont bien prouvé qu'ils étaient actuellement les meilleurs du monde en battant une nouvelle nation forte du rugby mondial. Face à l'Afrique du Sud, les Bleus ont enchaîné une 12e victoire de suite, étalant un peu plus leur record de série positive. Le match a très bien débuté au Stade de France avec des Bleus qui menaient déjà 13-0 au bout de 21 minutes de jeu. C'est pourtant en fin de match que les hommes de Fabien Galthié ont fait la différence grâce à l'essai de Falatea à 6 minutes du terme. Victoire finale 30-26, le 15 de France a prouvé une fois de plus qu'il était le meilleur 15 de la planète. Rendez-vous en 2023 pour un mondial qui s'annonce pas plus tard. Je crois qu'il y a un dernier test match donc contre le Japon le week-end prochain. On va
toujours bien pour la confiance. Après, sur ces tournées-là, souvent les équipes de l'hémisphère sud sont toujours plus ou moins un petit peu en dessous de leur niveau. C'est intéressant en tout cas vu la Coupe du Monde qui va arriver. Mais
ça veut rien dire.
Ça veut rien dire en tout cas vis-à-vis de cet adversaire-là, mais en tout cas, c'est
positif.
C'est positif et ça va encore plus, voilà, amener de la confiance au groupe.
On va parler de handball maintenant avec l'Euro féminin qui se déroule de la meilleure des manières pour les Bleus. 4 victoires en temps de match et une qualif pour le dernier carré quasiment assuré. Les joueuses d'Olivier Krombols ont d'ailleurs l'occasion de valider leur ticket pour les demi ce soir contre l'Allemagne. Le match vient de commencer depuis 4 minutes. Dimanche, face au Monténégro, les partenaires de Graz Zahadi ont impressionné face donc au deuxième du groupe avec une large victoire 27-19. Le dernier match aura lieu demain soir contre l'Espagne avant les demi prévus pour vendredi, a priori contre le Danemark ou la Norvège. Actuellement, donc, le match entre la France et l'Allemagne, toujours 0-0, il me semble, 2-0, pardon, pour la France. Donc ça vient de commencer, on vous tiendra au courant de l'évolution du score jusqu'à la fin de l'émission. On va passer à la pause musicale maintenant. On va s'écouter Migos, accompagné de Drake, sur le titre Walk It, Talk It, et on se retrouve juste après.
Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it.
Hey.
Walk it like I talk it.
Walk it.
Walk it like I talk it.
Walk it.
Walk it like I talk it.
like I talk it. Yeah. Take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Hey. Big talks of the town, big boy gang moves.
Gang moves.
I like to walk around with my chain loose.
Chain, chain.
She just bought a new ass, but got the same boobs.
Same boobs.
Whipping up dope scientists.
Whip it up, cook it up, cook it up.
That's my sauce where you find it.
That's my sauce when you look it up, find it.
Adding up checks, no minus.
Adding up, add it up, add it up, add it up, yeah.
Get your respect in diamonds.
Ice, 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 ice.
I bought a plane, Jane, roll it. These niggas bought they fame.
Woo.
I think my back got scoliosis, cause I swerved the lane. Heard you signed your life for that brand new chain.
I heard.
Think it came with stripes, but you ain't straight with the game.
Gang, gang.
Walk it like I talk it.
Walk it.
Walk it like I talk it. Walk
yeah.
it. Walk it like I talk it.
Talk it.
Walk it like I talk it.
Woo.
Walk it like I talk it.
Walk it.
Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it.
Talk it.
Walk it like I talk it.
Let's go.
Walk it like I talk it.
Walk it.
Walk it like I talk it.
Woo.
Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it.
Hey.
Walk it like I talk it.
Walk it.
Walk it like I talk it.
Yeah.
Walk it like I talk it. Walk it like I talk it.
Hey, I gotta stay in my zone. Say that we been beefing, dog, but you on your own. First night, she gon' let me fuck, cause we grown. I hit her, gave her back to the city, she home.
She at home now.
That was that, so I can't be beefing with no whack, nigga. Got no backbone. Heard you living in a mansion and all your raps, though. But your shit look like the trap on this Google Maps, though. We been brothers since Versace Bando, woo. Name ringing like Amigo trap phone, woo. Used to be with Vashti at Santos, that's on Tommy Campos. We live like Sopranos, and I
walk it like I talk it,
walk it,
walk it like I talk it, walk
yeah.
it, walk it like I talk it,
talk it,
walk it like I talk it,
woo.
Walk it like I talk it,
walk it,
walk it like I talk it, walk it like I talk it,
talk it,
walk it like I talk it.
Let's go.
Walk it like I talk it,
walk it,
walk it like I talk it,
woo.
Walk it like I talk it, walk it like I talk it,
hey.
Walk it like I talk it,
walk it,
walk it like I talk it,
yeah.
Walk it like I talk it, walk it like I talk it.
All set,
niggas pocket watching.
Watch.
I want that dot, dish that Minaj.
Which one?
I bought a franchise to double up the profit.
Franchise.
We make a landslide, chopper get the poppin'. Elliot got me rocket.
Plug
socket, chicken teriyaki. Take off rocket, keep them in pocket. Water gon' lock it.
Quadruple the profit.
Profit.
I walk like I walk,
hey.
Talk like I talk.
Ooh.
What's in my vault? Load of cash in the sauce. I put a lab in my loft.
Lamb.
She cook up and jack with the fault. By the pair, I got carrots that show.
By the pair,
I got carrots each load. Private life, private just round the globe.
De retour sur le 101.5 FM de Radio G. Donc voilà, on est ensemble jusqu'à 21h pour parler de la Coupe du Monde. Voilà, elle va commencer dans 5 jours. Une Coupe du Monde évidemment décriée pour les raisons que l'on sait tous. On ne va pas les rappeler. Je crois qu'on a déjà parlé dans des précédentes émissions. Mais voilà, on sait que c'est une Coupe du Monde qui amène à des débats. Voilà, chacun se fait son idée. Voilà, on ne va pas revenir sur boycott, pas boycott. Voilà, bon, de toute façon tout le monde sait le désastre que ça va être de tout point de vue, de point de vue écologique, de point de vue humain, de point de vue ne serait-ce que pour les joueurs, avec ce calendrier qui est devenu incessant. Bref, on va pas revenir là-dessus, nous on va essayer de se focaliser sur le terrain, puisque mercredi dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 25 joueurs, puis 26. Donc ça c'était lundi où il a annoncé le 26e joueur. Cédric nous a proposé juste avant de faire ligne par ligne, et je trouvais l'idée assez intéressante. Bah, donc on va commencer sans plus tarder. Donc au niveau des gardiens de but, Hugo Lloris de Tottenham, Alphonse Areola de West Ham et Steve Mandanda de Rennes. Là-dessus, bon, pas forcément de surprise.
Ah,
les débats, pareil.
Si, quand même.
Alors. Oui, la surprise, effectivement.
La surprise, c'est Mandanda, en soi.
J'allais venir surtout sur Maignan, parce qu'on savait, il y avait incertitude sur est-ce qu'il est rétabli, est-ce que Deschamps va l'appeler, même s'il n'est pas rétabli, etc. Donc, effectivement, Mandanda qui revient, parce qu'effectivement, il y avait normalement, c'était Lafont qui était censé être numéro 4. Et puis, c'est Mandanda, finalement, qui lui passe devant. Par rapport à ça, monsieur, moi, perso, bon, je sais que Lloris va tenir la baraque, mais. Vous auriez aimé voir quelqu'un d'autre, non ?
Non. Non.
Paul Bernardoni, peut-être ? Je pense pas. Je pense
il
pas.
A fait les JO déjà, c'était bien.
Oui, c'est déjà. Enfin, bien. C'est un bien gros mot. Parce
oui,
que
enfin,
l'équipe de France a pas fait quelque chose de bien. Oui, non, toi, Cédric.
Non, bah.
C'est les mêmes, à noter que c'est les mêmes qu'en 2018.
Ouais. Je pense que c'est plus. Il va être là en. un peu en pas en grand frère, parce que voilà, les trois ont connu le truc, mais c'est bien, je trouve, parce que voilà, ça évite peut-être de mettre un jeune gardien qui serait resté sur le banc, alors qu'il aurait pu apprendre, hein, effectivement, en observant.
De toute façon, oui, le troisième gardien.
Mais on n'est jamais à l'abri d'un pépin. Du coup, on sait que voilà, le numéro 2, potentiellement, il y aura peut-être un petit débat, mais bon, voilà.
Je pense que c'est Mandanda, du coup, qui passe numéro 2.
Je pense, moi aussi, qu'il passe numéro 2, mais bon, on ne sait jamais, tu vois, il peut être juste là, justement, pour.
Parce que Areola n'est pas titulaire à West Ham.
Voilà, il n'y a plus. Mais voilà, en soi, c'est pas choquant, on va dire, okay, en termes de gardien, quoi.
Très bien, on va passer au défenseur. Alors, défenseur, ça fait un peu plus polémique. Bah, surtout, il y avait un vrai enjeu de savoir si la France allait jouer à 5 dernières ou à 4 derrière. Finalement, donc, ce sera, Deschamps l'a annoncé juste après sa liste, ce sera à 4. Et c'est assez surprenant puisque de métier, entre guillemets, il n'y a que vraiment deux latéraux. Un à chaque poste, il n'y a pas de doublure, donc c'est assez surprenant. Alors évidemment, il y a des postes, vous allez voir, des joueurs qui vont
s'adapter. Ah bon, on a de quoi faire un magnifique bus, hein.
Donc voilà. Alors nous avons donc 9 défenseurs: Lucas Hernandez du Bayern Munich, Théo Hernandez, son frère, de l'AC Milan, Axel Disasi de l'AS Monaco, qui a remplacé Presnel Kimpembe, qui a été jugé pas assez prêt pour disputer le mondial. Ibrahima Konaté de Liverpool, pour moi c'était une surprise de le voir, bon, on va en reparler. Raphaël Varane de Manchester United, Jules Koundé du FC Barcelone, William Saliba de Arsenal, Benjamin Pavard du Bayern Munich et Dayot Upamecano du Bayern Munich. Messieurs, par rapport à ça, justement, moi ce qui m'inquiète un peu, surtout, voilà. On se posait aussi la question avant, est-ce que ce sera Mendy, notamment à gauche, Ferland Mendy ou Lucas Digne. Finalement, ce sera les deux frères Hernandez qui seront directement en concurrence, et c'est Deschamps qui l'a dit, au poste de latéral gauche, alors que ce sont deux gros potentiels. Et puis à droite, ce sera Pavard, donc, qui est habitué quand même un minimum à jouer à droite, et ce sera Koundé, qui est quand même plus habitué à jouer en défenseur central. Par rapport à ça, messieurs, vous, même dans les choix, peut-être Disasi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des 9 noms?
Bah, Upamecano, c'est pas très rassurant en équipe de France.
Ouais, je suis un peu d'accord.
Il a jamais confirmé, il a souvent été en difficulté, donc je pense qu'il y en a, qui méritaient peut-être plus.
Ouais, tu penses à quelqu'un en particulier?
Non, je n'ai pas forcément d'idée comme ça. Voilà, enfin. Et puis moi, personnellement, il a dit qu'on jouerait un 4. J'y crois pas.
Tu crois pas carrément?
Je crois pas. Sinon, pourquoi en prendre autant?
Donc là, effectivement, moi, ce qui me choque, c'est que techniquement, dans les 9, il y en a 8 qui peuvent jouer central. Évidemment, ils joueront pas centraux parce qu'il faut des latéraux dans une équipe. Mais. Parce que Pavard peut jouer en centrale, il le fait un peu avec le Bayern dans une défense à 3. Koundé, il est meilleur en centrale. Lucas Hernandez, il joue plus généralement en centrale. Et là, c'est vrai que tu n'as qu'un seul vrai latéral, donc c'est assez choquant.
Et je ne sais plus si c'est au centre ou dans ces postes-là. On a un déficient en plus en termes de gaucher.
Ouais, en fait, il y a un vrai problème d'axe gauche, d'axe droit, parce qu'on a ça penche à droite. Il y a beaucoup de, je crois que c'est des droitiers qui met à droite. Apparemment, donc Deschamps était plus de la team de je veux un mec droitier, un mec gaucher. Et apparemment, donc il y en a qu'un seul qui est gaucher dans l'équipe, c'est Lucas Hernandez qui va jouer en plus latéral.
Ah oui, c'est pour ça, c'est aussi surprenant là-dessus.
Et en conférence de presse, il a dit. Entre guillemets, je m'en fous, je mettrai un droitier à gauche, c'est pas grave. T'en penses quoi, toi, Faustin?
Je pense que ça manque de latéral, là aussi, hein, comme tout le monde, je pense. Peut-être à la place de Disasi, ouais. Moi, j'aurais peut-être plus mis Klos.
Ouais, moi, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas Klos.
Ouais, ça, mais je crois que même lui, il était surpris.
Je pense, ouais.
Je crois qu'il y avait un truc, genre un reportage qui était prévu sur lui.
Ouais, bien sûr.
C'est dommage parce qu'à droite, ça va être compliqué parce que Pavard, comme tu l'as dit, il joue plus central en ce moment avec le Bayern.
Ouais, c'est ça. Et puis Klos, même s'il n'était pas très à l'aise en latéral droit, il était plus à l'aise dans une défense à 5 en piston droit. Au moins, ça permettait de pouvoir s'ajuster en cours de compétition s'il repassait à 5. Bref.
En tout cas, apparemment, Deschamps l'a bien appelé.
Ouais, pour le dire.
Pour y dire qu'on a qui serait pas sélectionné. Et depuis, en tout cas, non. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il a fait une déclaration,
ouais, il a fait un poste,
voilà, dans le sens où...
Il est derrière les bleus.
Il est derrière les bleus.
Très bien, milieu de terrain. On va passer maintenant donc, au milieu. On a donc deux joueurs du Real, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Deux joueurs de Marseille, Jordan Veretout et Matteo Guendouzi. On a Youssouf Fofana de l'AS Monaco et Adrien Rabiot de la Juventus Turin. On l'a dit, enfin voilà, on entend un peu parler un peu partout. Notre gros déficit, ça va être au milieu de terrain. On sait que Kanté et Pogba ne seront pas là. Ce sont les milieux références, évidemment, depuis des saisons en équipe de France. Ils sont blessés. Bon, c'est vrai que voir Veretout, notamment appelé dans la liste, c'est un petit peu inquiétant. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont inquiets de ces six milieux de terrain qui ne sont pas forcément aussi clinquants que Kanté et Pogba?
C'est le problème, c'est par exemple Guendouzi, là.
Ouais.
On voit avec Marseille, il n'est pas forcément constant d'un match à l'autre.
Ouais.
Et bon, il fait du gros travail, par contre.
Puis la Lagnac et tout.
Voilà, mais le problème, c'est est-ce que ça ne va pas faire pareil en équipe de France?
Ouais.
Ça peut être intéressant, effectivement, parce qu'il a.
Après, il n'arrive pas titulaire non plus.
Voilà, non.
Dans un match, justement, Lagnac, ça peut aider.
On ne sait pas, au final, hein, s'il sera titulaire ou pas. Mais,
il y a une incertitude aussi. Sûr.
C'est ça. Mais voilà, pour ce côté Lagnac, ça peut être intéressant.
Faustin, t'exprimer.
Moi, je pense que les six ne sont pas tous inquiétants. C'est genre un Tchouaméni, c'est ça seul.
Ouais, moi aussi, je suis fan de Tchouaméni.
Sans problème. Bien. Mais c'est vrai que voir Veretout là-dedans, c'est étrange.
Je pense que Deschamps a fait le choix de la sécurité parce qu'il l'avait déjà appelé au rassemblement précédent, et effectivement, c'est vrai que moi j'en ai parlé la semaine dernière, j'aurais bien vu un Ndombélé relancer parce qu'il est plutôt bon à Naples, et ouais, c'est un peu dommage d'avoir viré tout après. Bon, ça reste quand même un bon milieu, je trouve, parce que c'est vrai que si tu prends d'autres sélections, tu leur enlèves leurs deux meilleurs milieux de terrain. Je pense que, notamment par exemple, au Danemark, si tu leur enlèves, je sais pas moi, Højbjerg et Eriksen, je pense que derrière le backup est moins fringant que celui qu'on a. Donc à voir. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Tchouaméni sera titulaire. Vous préférez qui, vous, à ses côtés? Camavinga qui joue avec lui au Real, Fofana qui a joué avec lui à Monaco, ou un Rabiot qui a plus d'expérience? Penchez sur qui, vous?
Moi, je verrais bien Rabiot.
Tu verrais bien Rabiot, ouais. Cédric?
Si t'es pas très sûr, vaut mieux jouer la carte de la complicité. Ils ont l'habitude de se trouver avec le Real.
Camavinga?
Donc ouais.
Très bien. Au niveau des attaquants, c'est du classique, pas forcément de surprise, à part justement Marcus Thuram qui a été appelé donc lundi. Marcus Thuram donc, qui flambe en ce moment avec le Borussia Mönchengladbach. Sinon, les autres attaquants, Karim Benzema du Real Madrid, Kylian Mbappé du PSG, Antoine Griezmann de l'Atlético de Madrid, Kingsley Coman du Bayern Munich, Ousmane Dembélé de FC Barcelone, Olivier Giroud de l'AC Milan et Christopher Nkunku du RB Leipzig. Là-dessus, forcément, il n'y a pas forcément de long débat à avoir. C'est vraiment une vraie armada offensive qu'on a. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Faustin?
C'est clair que c'est notre gros point fort.
Ouais.
Là, je me demande si il va mettre Nkunku ou Griezmann titulaire.
Ah ouais, tu passerais de Griezmann?
Ouais,
à sa place.
Peut-être, parce que Nkunku, il est vraiment fort, moi, je trouve.
Ok.
Je trouve vraiment meilleur que Griezmann, quoi. Griezmann, en ce moment...
C'est un peu mieux, ouais.
Ouais, c'est de mieux en mieux, c'est clair. Mais peut-être pour un peu de renouveau, peut-être au moins dans les poules, pour tester sur un match.
Ouais.
Pourquoi pas.
Ok. Toi, Cédric, c'est une attaque, c'est classique, quoi. C'est très fort.
Ouais. On a de quoi faire. Déjà, ce qui est bien, c'est que, voilà, on a quand même... Un Giroud qui est là, et ça, mine de rien, ça peut apporter plus que s'il n'avait pas été là.
Au niveau de l'expérience.
Au niveau du...
Le fait de rentrer.
De rentrer, voilà. Ça peut jouer. Hein. Puis on a eu quand même, pendant la dernière Coupe du Monde, même s'il ne marque pas, il a quand même été bien utile. Donc voilà, puis bon, il y a l'expérience. Il y a, alors, au nombre d'attaquants, bon... Est-ce qu'il fallait en rajouter un de plus?
Ouais, tu vois.
Quand le 26e a été annoncé, ça, je suis pas forcément sûr.
Ouais.
Après, le problème, c'est que voilà, il y a peut-être des incertitudes dans le groupe sur des blessures et pour l'instant, ça, on ne veut pas que ça se sache. Donc, un peu surprenant là-dessus aussi.
Ok, et eh bien.
Mais comme, bien. Comme ouais. Le fait du remplacement de dernière minute.
De Kibembe. Enfin,
oui, voilà. Qui est un peu surprenant. Aucune sélection en équipe de France.
Ouais, ouais. Et alors qu'avant, il avait pris Badiachil.
C'est ça. Enfin,
La cohérence, parfois, chez Deschamps. Bon, voilà. On ne comprend pas tout.
C'est,
mais bref.
J'ai un petit peu peur qu'il soit là pour un peu cirer le banc au final.
Ouais.
Et qu'il jouera peut-être. Si ça se passe bien, peut-être sur le troisième match de poule. Mais.
Ouais.
C'est un choix aussi voilà, qui est un peu étonnant. Enfin, durant toute la campagne de préparation avec la coupe à Toto là, qui sert à rien.
La Ligue des Nations,
il n'a pas forcément fait confiance aux jeunes.
Ouais.
Donc choix aussi là-dessus, pas très logique dans la logique de Deschamps.
Ouais. Sinon, petite info aussi, puisque l'équipe de France s'est déjà réunie. Apparemment, Christopher Nkunku se serait blessé à l'entraînement. Alors, il est sorti en boitant, il va passer des examens. Donc, j'espère pour lui que ce n'est pas si grave que ça. Voilà pour les Bleus. Les Bleus qui vont commencer donc mardi prochain à 20h. Ce sera un match contre l'Australie. Match d'ouverture assez simple. Sinon, le samedi 26, ils joueront donc le match décisif face au Danemark à 17h. Et puis enfin, mercredi à 16h contre la Tunisie. Messieurs, c'est vraiment une poule abordable. Alors, on rappelle aussi qu'il y a cette fameuse malédiction du tenant du titre qui court depuis 3 éditions, et même 4 sur 5, si on rajoute 98-2002 pour la France. Franchement, est-ce que ce groupe, je trouve, moi, personnellement, très abordable. Est-ce que c'est votre avis aussi? Est-ce que vous voyez l'équipe de France passer ou échouer sur la phase de groupe?
Il est intéressant, je trouve. Parce que la seule équipe que je vois là vraiment peut-être la plus faible du groupe, ça va être l'Australie. Les Tunisiens, ils vont avoir à cœur d'aller le plus loin possible dans cette compétition-là. Et leur dernière sortie, on a quand même vu que voilà, ils avaient du jeu, ils avaient de l'envie. Il y a eu de la malchance aussi, on va dire, au niveau arbitrage, des choses comme ça. Donc, faut pas les prendre à la légère.
Ouais.
Et puis, on retrouve quand même ceux qui nous ont bien fait suer
pendant deux matchs.
Pendant deux matchs, voilà, qui ont failli nous envoyer dans la poule B. Donc, d'habitude, on était largement au-dessus dans les différentes Coupes du Monde quand on les rencontrait. Généralement, c'était le troisième match aussi. Ouais. C'était plus le match où on faisait tourner. Là,
ça va être le match décisif.
Ça peut être le match décisif si on n'a pas fait le taf avant. Quoi.
Ouais, c'est limite un 16e de finale. Donc voilà. Moi, je trouve on a de la chance de tomber sur, franchement, la Tunisie. Et l'Australie, c'est assez faible. Je pense que l'équipe de France.
Ça promet de l'ambiance.
Ouais.
Le France-Tunisie ou Tunisie-France.
Toi, t'en penses quoi? Pareil.
Ouais, je suis d'accord.
Simple.
Il faut faire gaffe toujours. Hein,
bien sûr.
Surtout contre le Danemark et un peu contre la Tunisie, hein, parce que je pense que pour eux, gagner contre la France, ce serait l'exploit du siècle.
Bien sûr.
Il faut faire gaffe, mais c'est abordable sans problème.
Très rapidement, après on va parler vite fait des groupes et des favoris. Où est-ce que vous voyez l'équipe de France?
Dans un hôtel de luxe. et déjà dans l'avion demain. Mais
dans l'avion, effectivement, on leur souhaite. Mais oui, dis-moi.
Mais je sais pas. Je sais pas, ça va vraiment dépendre de.
Normalement, je crois que
comment le groupe.
Si on termine premier, on a un tableau facile. Normalement. S'il n'y a pas de surprise.
Mais.
Après, faut jamais.
C'est un peu trop tôt, je dirais, pour se projeter. Mais
L'objectif, c'est une demi-finale, au moins.
Ouais.
Ouais, d'accord. Ce serait bien.
Je dirais quart.
Quart minimum.
Ouais, parce que bon. Avec la sécurité qu'on a pas actuellement.
Ouais, c'est vrai, il y a pas mal d'incertitudes, notamment sur le jeu. Je vais vous présenter un peu les groupes de ce mondial. Au niveau du groupe A, on a donc le Sénégal, les Pays-Bas, le Qatar, le pays hôte et l'Équateur. Ça va commencer d'ailleurs donc dimanche à 17h avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Groupe B avec l'Angleterre, les États-Unis, le Pays de Galles, trois pays anglophones, et l'Iran. Groupe C avec l'Argentine, la Pologne, l'Arabie Saoudite et le Mexique. Groupe D, on l'a dit, celui de la France, du Danemark, de l'Australie et de la Tunisie. Groupe E, Allemagne, Espagne, Costa Rica, Japon. Groupe F, Belgique, Croatie, Maroc, Canada. Groupe G, grosse poule avec le Brésil, la Suisse, le Cameroun et la Serbie. Enfin, le groupe H, Uruguay, Ghana, Portugal et Corée du Sud. Messieurs, rapidement, parce qu'on va bientôt libérer l'antenne, quels sont vos favoris pour cette compétition? On sait que la France n'est pas, bon, à le statut de tenant du titre, mais n'est pas vraiment favori justement au niveau de son jeu. Vous voyez qui gagner la Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a plusieurs noms, peut-être une surprise que vous voyez? Faustin, je commence par toi.
Moi, dans mon rêve, c'est l'Argentine qui gagne. Pour la dernière Coupe du Monde de Messi.
T'es un fan de Messi ?
Ouais, j'adore Messi, avec une finale contre le Portugal, hein, ce serait le rêve.
Très bien. Messi, enfin, du coup, là, l'Argentine. D'autres nations que tu verrais bien performer ?
Moi, je veux bien le Sénégal se sortir aussi.
Bien sûr. Attention à Mané qui est peut-être blessé. C'est Cédric.
Alors, Brésil, Argentine, ça me paraît logique.
Ouais. Et un troisième.
Dans les équipes africaines, j'hésite entre le Sénégal et le Cameroun pour aller assez loin.
Ouais.
Et encore, si on croit notre maître à tous, en termes de football africain, Eto'o.
Oui.
Il l'a annoncé, c'est eux qui gagnent.
Samuel Eto'o, mais bon.
Son scénario est très intéressant.
On respecte sa carrière, mais bon, voir le Cameroun gagner la Coupe du Monde, bon, on en est loin.
Ça, je pense que ce sera compliqué. Mais voilà.
Une finale face au Maroc. Enfin, bref.
Un côté européen, si on enlève la France, c'est un peu plus ouvert parce que les Pays-Bas en Coupe du Monde, ça peut être pas mal.
Attention à l'Italie. Ah bah non, ils sont pas qualifiés.
Par Portugal, je sais pas. Je sais pas trop. Ça va dépendre un peu de la forme de Ronaldo, de tout ça. Mais en tout cas au niveau des Européens, ça va être un peu plus dur de déceler qui ira le plus loin. Quoi.
Très bien. Pour ma part, ce sera donc, je vais faire dans le classique, Brésil-Argentine. Je verrai bien la France, évidemment, et sinon, Allemagne. Et en surprise, je vois bien, je ne sais pas pourquoi, les États-Unis, je le sens, Serbie aussi. Et pourquoi pas Maroc avec nos Angevins, Buffalo Nay. Voilà, c'est donc la fin de l'émission. L'émission donc touche à son terme. On va se retrouver. Alors, moi, je ne serai pas là la semaine prochaine. Les gars, on verra. On communiquera si jamais vous ne faites pas d'émission. En tout cas, voilà, on vous souhaite une bonne Coupe du Monde pour ceux qui vont la suivre. Et puis, nous, on se dit pour ceux qui nous écoutent, à la semaine prochaine ou dans deux semaines. C'est l'UFAB que l'on reçoit. Et là, on va tout de suite vous laisser avec Imaginaire.
Il va falloir